En voiture, Simone.
Excusez, voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone.
Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme.
Starter, 20h30, 21h, sur Indestar.
Allez bien, bonsoir tout le monde, et merci d'être branchés pour suivre tout au long de cette soirée. Actu Solide et Starter qui commence de 20h30 à 21h à retrouver en podcast quand vous le voulez ou vous le voulez sur une vingtaine de plateformes. Ce soir, nous allons parler du Paris-Dakar.
Oui.
Qui ne connaît pas le Paris-Dakar ? 41e édition cette année qui s'est terminée vendredi.
As-tu suivi ou pas ?
Je n'ai pas suivi parce que je ne suis pas, il faut l'avouer, un grand fan de sport automobile en règle générale. Mais par contre, je ne suis pas sans connaître un petit peu le Paris-Dakar en règle générale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous en parler ce soir et on s'est bien renseigné sur le sujet. Le Paris-Dakar, c'est une histoire qui remonte à 1975 où le créateur de l'enduro du Touquet, un certain Thierry Sabine, participe au rallye d'Abidjan. Et il se perd dans le désert de Libye. Et là, il se dit, hey, ça serait cool de faire galérer aussi d'autres gars en créant un rallye prestigieux, difficile, et qui réunit à la fois des voitures, des motos et des camions.
Donc, et ouais, pour info, la course a été organisée par Jean-Claude Bertrand, je sais pas si tu savais.
Aussi, effectivement. Donc, l'idée mûrit un petit peu dans sa tête, et c'est ainsi qu'après avoir déballé leur cadeau de Noël, les compétiteurs de l'année 1979, de l'édition 79, prennent le départ depuis Paris pour traverser l'Espagne, l'Algérie, le Niger, la Haute-Volta, le Mali et le Sénégal pour arriver finalement à la capitale du Sénégal qui est Dakar. Ils seront que 74 à pouvoir y arriver, à aller jusqu'au bout de l'épreuve. Donc, d'ores et déjà, on pose un petit peu les bases en se disant on va partir de France, on va aller jusqu'à Dakar. L'idée, c'est de faire pas mal de désert dans des conditions extrêmes et avec voilà, des conditions généralement difficiles pour qu'au final, ça soit très sélectif et que ça soit que ça en devienne une course prestigieuse. Jolan, tu as quelques petites anecdotes qui sont arrivées entre les années 70 et puis les années 2000.
Ouais, bah comme tu le disais au début, y a Thierry Sabine qui a réalisé son premier rallye en moto en 1977, pour être exact.
77,
si je dis pas de bêtises.
Ah oui, lui, tu veux dire, oui, Thierry Sabine, avant
En personne.
Ouais, voilà. Tout à fait, ouais.
Avant de justement de se dire, bah tiens, on va faire
Le Paris-Dakar.
Le Paris-Dakar. Ensuite, en 1978, il y a eu 170 équipages qui sont partis de Paris.
Mm-hmm.
Voilà, donc c'est le plus gros départ qu'il y a eu à Paris parce qu'il y a eu beaucoup de retombées de médias. Enfin, il y avait plein de médias qui étaient là.
Et RTL qui était là.
Je ne sais pas s'ils étaient là.
Si, mais avec, comment il s'appelait, Max Meunier, qui faisait les routiers sont sympas le soir.
Il
faisait un point sur le Paris-Dakar voilà. Chaque soir.
Donc ils sont partis de la place Trocadéro, puis pour arriver au Dakar.
Ok.
Voilà. Ensuite, malheureusement, il y a une année où le Paris-Dakar a été annulé. Parce que je sais plus.
Ah oui, mais là tu remontes, là tu vas directement en 2008 là.
Ouais, je vais en 2008.
Non, mais t'as peut-être avant dans les dates.
Dans les dates.
Bah, par exemple, tu vois, en 80, il y a la participation des frères Marot qui arrivent 3e
oui,
en 4L.
Ouais.
Ouais, non, mais quand même, faut le signaler. Ils ont pris une 4L, ils sont arrivés 3e du Dakar et ils vont gagner en 82, cette fois-ci en R20 Turbo 4x4.
Ouais. Voilà, ça, bah, c'est tu vois, j'avais pas cette info.
80-82. 86, qu'est-ce qui se passe malheureusement?
Bah, du coup, 86.
L'hélicoptère.
Oui, voilà, c'est
avec
ça.
Dedans.
Balavoine. Qui meurt malheureusement dans un accident
chanteur
d'hélicoptère.
Français, hein, que vous connaissez certainement. Balavoine, c'était ça.
Ici ou là-bas.
Tu chantes ça sous la douche.
Oui, c'est. Donc malheureusement dans l'hélicoptère il y avait Balavoine mais pas que, hein, il y avait aussi Thierry Sabine, donc
le réalisateur du Dakar.
Du Dakar, exactement, ouais. Créateur de la course. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de ces morts là, mais déjà ils étaient 4 dans l'hélicoptère. Mmh. Et dans le Paris-Dakar en règle générale c'est une course qui est dangereuse parce qu'en tout il y a 75 personnes jusqu'à maintenant qui sont
tuées.
Mortes sur le raid du Paris-Dakar.
D'ailleurs, donc, je voulais rebondir là-dessus, on parlait de Balavoine et de personnes qui ont malheureusement perdu la vie. Balavoine a sauvé une pilote dont je suis désolé, j'ai oublié le nom.
Oui, un an avant, j'ai plus le nom non plus sur la main. Mais
je sais que, enfin, la pilote lui a dit, ça m'avait marqué d'ailleurs, il m'a dit, il faut être complètement malade pour faire ce genre de course.
Ouais.
La pilote lui avait dit ça.
Eh oui, eh oui. En 1983, il y a eu la grande tempête de sable du Ténéré. Chapeau aux pilotes qui ont réussi à traverser cette épreuve parce que, en vrai, traverser un désert entier sans rien voir, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Pour voir les panneaux traversés de chameaux là-dedans, c'est compliqué.
Déjà, Déjà, quand tu conduis ta 4L sans essuie-glace,
oui,
c'est compliqué.
Alors, effectivement, déjà, faut voir à travers les gouttes, t'as l'impression de regarder Canal Plus encrypté.
Alors,
mais là, dans
sable,
le désert, avec le sable, c'est compliqué. Ouais. En 86, chez Peugeot, ils étaient au taquet parce qu'ils ont envoyé 600 voitures pour participer à la course, avec une belle domination, notamment des 405 Turbo 16 à l'époque. D'ailleurs, il y en a un qui a bien représenté la team Peugeot pendant ces années-là, c'est le Finlandais Harry Vatanen. Qui a remporté le rallye en 87 avec la 205 Turbo 16, en 89 et 90 avec la 405 Turbo 16, et en 91 avec la ZX qui reste dans le groupe PSA. Mmh. Ce qui fait, là je fais une parenthèse, hein, mais d'une manière générale, ça fait toujours du bien en fait aux ventes de voitures en série, toutes ces victoires, parce que c'est un petit peu, voilà, on va en parler de la, tout à l'heure de la Subaru Impreza dans le garage.
Elle a participé au Dakar elle aussi.
Bah, alors pas au Dakar aussi, enfin dans les versions modifiées, ouais. Et puis pas mal de rallyes en règle générale. Mmh. Mais quand tu peux acheter la même voiture que celle qui a gagné les épreuves de, d'un des rallyes les plus durs au monde,
tu peux un peu te la vendre.
Ça fait plaisir. Mais oui, tu te la pètes, mais oui, clairement. En 92, ils ont poussé encore plus loin la course, puisque en fait, au lieu de s'arrêter à Dakar, ils ont traversé l'Afrique jusqu'au sud.
C'est ça.
C'était le Paris-Le Cap, donc 12 427 km de course et 10 pays traversés. Voilà, donc
moi j'ai comme info Dakar-Le Cap, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En 2000, le Paris-Dakar traverse cette fois-ci l'Afrique d'ouest en est. Donc ils partent de Dakar et ils arrivent en Égypte. Donc ça, c'est une première. En 2001, c'est la première fois qu'une femme remporte la course. Donc bravo à Jutta Kleinschmidt. Pas pour son nom, mais parce qu'elle a gagné.
Ça sonne un peu allemand, ça, non?
Alors non, je pense pas qu'elle soit allemande, mais je me rappelle plus. Mais c'est dans l'est, hein, okay. Ça c'est sûr. En 2007, on félicite notre Français Stéphane Peter Hansel. Qui, alors si on ne connaît pas lui, il a été partout. Il a en 2007, il a remporté sa 9e victoire au Paris Dakar, mais il va continuer de gagner en 2012, 2013, 2016 et 2017. Ce qui fait que c'est le pilote qui a largement largement numéro 1 du Dakar. Il est français, donc cocorico. Voilà, ça fait plaisir. En 2008, tu le disais hein, tout à l'heure, c'est le drame parce que là, les terroristes sont en Mauritanie notamment. Il y a 4 Français qui ont été assassinés quelques jours avant le départ du Paris-Dakar. Donc, du coup, le Dakar est annulé et tout le monde pleure. Ouais. Seulement, ils vont pas se laisser avoir. C'est-à-dire qu'un an plus tard, en 2009,
ils relancent.
On relance, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On change un petit peu les règles, c'est-à-dire qu'on n'est plus en Afrique pour le coup.
Ouais, du coup, ils prennent le bateau, il me semble, les participants doivent prendre le bateau pour aller à 7, si je dis pas de bêtises.
À où?
Pour arriver à 7, non?
Ah bah, qu'est-ce que tu fais à 7?
Non, je sais pas, c'est pas le nom, bah, je l'aime peut-être
non,
mal.
Non,
7
c'est en France. Hein. Non, là, on change carrément de continent en fait.
Ouais, ils vont à Alger, non, il me semble.
Non, on va en Amérique du Sud.
Ah,
Amérique du Sud de 2009 à 2019 avec un coup d'envoi pour l'édition 2009 à Buenos Aires en Argentine.
Hein. Dans les infos. Okay.
Ouais, bah, ils voulaient partir de Paris, mais en même temps, traverser l'Atlantique en voiture, c'est un petit peu compliqué. Hein, donc c'était pas amphibie. Et puis l'année dernière, la course s'est déroulée qu'au Pérou parce que en fait, les autres pays voulaient pas, notamment à cause de la crise économique là-bas. Ah. C'était un petit peu compliqué. C'était de plus en plus compliqué, notamment, enfin organisé, notamment à cause du décalage horaire.
Ah oui, aussi.
Donc cette année et pour les 4 prochaines années, eh ben on est parti en Arabie Saoudite. Donc ça change de décor, c'est plus facile aussi à organiser. Pour cette édition 2020 qui vient de se terminer, je le rappelle, un vendredi, il y a eu 7800 km de course, donc 5000 km qui se sont disputés en spécial. 3 quarts de parcours sur le sable, donc on reste hein, dans l'idée de...
Ça me fait rigoler, mais
ça,
les écologistes, ils doivent un peu râler sur ce genre d'événement.
Oui, bah alors, non, mais en vrai, on pourrait faire un débat sur tout ce qui est sport automobile en règle générale, sauf sur ce qui est Formule E, parce que c'est de la Formule électrique et on se dit, bah, c'est plus écologique, quoique, encore une fois, là, on pourrait aussi avoir débat, mais après, le sport automobile, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de se faire plaisir. Comme tout événement sportif, c'est quelque chose qui est très suivi à travers le monde. Le Paris-Dakar, c'est clairement une course qui a le mérite d'être beaucoup suivie partout dans le monde, mondialement connue. Et puis deuxièmement, en fait, toutes ces victoires, je parlais tout à l'heure de l'apport que ça pouvait avoir une voiture de course sur la production et la vente de voitures en série. Mais au-delà de ça, toutes les nouveautés technologiques qui sont embarquées dans ces voitures qui doivent subir des conditions extrêmes, elle se retrouve en fait sous une forme ou sous une autre à un moment donné dans une voiture de série. Donc c'est comme un concept car, c'est comme toutes les voitures de course où on teste des choses, où on se dit
pour
ouais mais
une
voiture, une Rolls c'est hors de prix, personne ne peut se la payer, ou une Lamborghini ou etc, personne ne peut se la payer etc. Oui, mais peut-être qu'il y a quelques personnes seulement qui peuvent se la payer. Là il y a que quelques personnes qui peuvent participer au Paris-Dakar, quoique je rappelle que c'est une course où chacun peut s'inscrire, même si après c'est très difficile. Mais en tout cas voilà, ces technologies se retrouvent fiabilisé à un moment donné dans notre Clio. Donc ouais. C'est important d'avoir
ça
ce genre de choses.
Ça fait penser un peu le même concept, ça n'a rien à voir, mais comme le 24 heures du Mans par exemple.
Oui, oui, mais pareil, ouais, toutes les courses où effectivement on teste l'endurance pendant 24 heures. Donc aussi, si ça est capable de tenir pendant 24 heures en conditions extrêmes à 300 km/h, c'est capable d'être durable sur 15-20 ans dans une voiture généraliste. Pour parler de la course donc de cette année et notamment des victoires qu'il y a eu, j'ai le classement par catégorie. Ah. Alors en moto, bravo à Ricky Brabec qui en 40 heures, 2 minutes et 36 secondes a fini l'ensemble des épreuves. Il y a l'original dans la catégorie Original by Motul. Alors là, pour vous expliquer un petit peu la catégorie, ça réunit les pilotes de moto et de quad qui n'ont ni assistance ni accompagnement pendant la course et qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes ou sur leurs petits camarades de la même équipe. Donc là, bravo à Emmanuel Ginès qui a fini la course en 48 heures, 5 minutes et 7 secondes. Dans la catégorie des quads, c'est Inya Chio Kalalse, 52 heures, 4 minutes 39 secondes. En automobile, c'est Carlo Sanz qui a fini la course en 42 heures, 59 minutes et 17 secondes. Peut-être que j'écorche un petit peu les noms, hein, j'en suis désolé. Dans la course des camions, j'ai André Karginov, il doit être russe. André Karginov, 46 heures, 33 minutes et 36 secondes. Et enfin, dans la catégorie des buggy, c'est Kazé Curry qui a fini la course en 53 heures, 25 minutes et 52 secondes. Manger trop de curry. Félicitations à eux, hein, en tous les cas. Et puis,
en général, je trouve qu'il y a des bons résultats. Hein.
Ouais, non, mais c'est, bah, de toute façon, on peut féliciter tout le monde. Qui ont participé à la course qui ont su endurer ces conditions extrêmes parce qu'encore une fois, c'est une course qui est très très difficile. Alors si on prend le Dakar dans son ensemble, voilà, on félicite Stéphane Peter Hansel parce que voilà, il a éclaté le Dakar toutes ces années. On dit bravo aussi à nos pilotes français qui sont Cyril Neveu, Cyril Després, apparemment les Cyril ça gagne bien en course automobile, Hubert Auriol, René Mitch, Pierre Lartigue, Richard Saint et puis tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de ces épreuves en tout cas. Mais là eux ils sont vraiment dans le top 10. Pour terminer, alors je sais pas si t'as des anecdotes à rajouter, Jolan, par rapport au Paris-Dakar, Antoine. Non. Vous pouvez vous poser la question, parce que je me la suis posée aussi, c'est pourquoi on l'appelle toujours le Paris-Dakar, alors que, ou le Rallye-Dakar
maintenant.
Je t'avoue
qu'en faisant le sujet, je me suis fait la réflexion.
Mais t'as pas cherché. Non. Okay. Parce que ça fait quand même 11 ans qu'on est en Amérique du Sud, et puis que cette année, ils ont couru en Arabie Saoudite. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est comme nos collègues de Skyrock. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'ils passent plus de rock, il n'y a plus de Nirvana. Donc en fait, c'est une question de marque. C'est-à-dire que Paris-Dakar, ça parle à tout le monde. Ça fait ressortir le côté course extrême, conditions difficiles, course prestigieuse, etc. Voilà, donc ils ne voulaient pas tout simplement changer de nom. Si par exemple on appelait ça une année Paris-Brest, bah, ça nous donnerait juste envie de manger un dessert et non pas d'aller dans le désert. Tu vois un peu l'idée. Ça serait dommage quoi. Voilà pour ce qui est du sujet du Paris-Dakar. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à nous faire vos petits commentaires sur la page Facebook d'Indestar. Dans un instant, ce seront les brèves automoto, toute l'actualité automoto de la semaine. Et puis on terminera par le garage. Et puis comme on vous l'a annoncé, on va parler d'une voiture aussi de compétition qui a fait ses preuves en compétition, qu'on avait tous dans les jeux vidéo dans les années 90.
Que j'admire beaucoup.
D'ailleurs. Et qu'on aimerait avoir et que le maire de notre ville possède. C'est la Subaru Impreza, donc on parlera sûrement surtout de les versions prestigieuses, hein, c'est-à-dire la version WRX et puis la STI. Ça sera donc à découvrir dans le garage avec les petites annonces qu'on vous a réservées.
Starter, les brèves.
Les brèves de Starter, comme tous les lundis soirs, on vous parle auto et moto. On va commencer par les deux roues pour arriver finalement aux quatre roues. On commence par Antoine.
Oui. Donc moi je vais parler d'une moto qui est sortie en Inde.
Ouais.
Mais arrête de tripoter.
Non, mais non, tu parles jamais près du micro.
Devant c'est pour toi, je suis devant là.
Oui, bah alors vas-y. On a des auditeurs qui nous disent on n'entend pas Antoine.
On n'entend pas Antoine.
Alors.
Là, c'est bon là.
Alors là, visuellement, il est en train de prendre son cahier, là, ses cahiers de, son cahier devant ses yeux.
Oui, parce que sinon, je vois pas ce qu'il y a.
D'accord.
Soit après, je louche.
Ok.
Donc là. Donc en Inde, il y a une moto qui est sortie qui va sortir bientôt.
Ouais.
Elle s'appelle la Imoto Surge. Et c'est une moto électrique.
Oui, bah alors avec e-moto, effectivement, sans se redouter.
C'est une rétro en fait.
Quoiqu'un e-mail, c'est pas électrique. Hein. Mais bon.
Donc c'est une rétro. C'est une moto.
Donc façon vintage
voilà,
en fait. Ça
reprend la carrosserie de la Kawasaki. Attends. Qu'est-ce que j'ai marqué moi KLC 500.
Ouais,
pas confondre avec KFC.
Oui. Papa, il y a pas le petit déj qui est servi avec.
La touche du mois.
Donc la moto pourrait monter jusqu'à 120 km/h.
Ouais.
Elle aurait une autonomie de 300 km.
Ouais, à condition de pas être à 120 km/h, parce que on rappelle que quand on est en électrique, plus on roule vite, plus la batterie se décharge rapidement.
T'es jamais allé en Inde, toi, tu sais pas comment ils conduisent aussi là-bas.
Bah, à 120 km/h, c'est compliqué de rouler.
Ils conduisent comme des barjots.
Oui, mais à 120 km/h, c'est quand même compliqué.
Oui, aussi. Ouais.
C'est parce qu'effectivement, tu risques de te faire culbuter à tout moment.
Ouais, c'est ça.
Il y a deux semaines, je vous ai fait le top des voitures qui étaient le mieux vendues en France en 2019.
Oui.
Et bien cette semaine, j'ai fait le top des plus gros gadins de l'année 2019.
Gadin, voilà. C'est bien ce terme.
C'est-à-dire, bah, le gadin, c'est genre tu penses que tu vas bien vendre et finalement, c'est raté.
Ah, ok.
Voilà. Et les plus gros flops, si tu veux, de l'année 2019. Alors, il y a des circonstances atténuantes hein, pour certaines, comme par exemple la Renault Kangoo, qui est sortie en 2007. Donc forcément, on est en 2019, il est temps qu'elle soit remplacée. Parce que cette année, elle a perdu 40% de ses ventes. Donc c'est le plus gros gadin de l'année, hein, number one.
Je voilà. Peux faire une dédicace à quelqu'un comme
un Kangoo ?
Ouais.
Ouais.
Guillaume.
Guillaume, bah, dédicace à Guillaume qui roule en Kangoo, le pot. Non, c'est bien, c'est pratique quand même, un Kangoo.
Ouais.
On est plus étonné par contre par la baisse de plus d'un tiers des ventes du Mercedes GLC qui pourtant lui date que de 2015. Il est numéro 2 hein, sur la marche des plus gros flops de l'année dernière. Ouais. La Fiat Tipo complète le triste podium avec moins 26% des ventes par rapport à 2018. Alors honnêtement, je ne tirerai pas sur une ambulance, mais la Fiat Tipo pour moi ne présente aucun intérêt. C'est-à-dire, voilà, cette voiture-là, je comprends pas comment elle a baissé de 26% par l'année. Enfin, je sais pas combien elle faisait avant, mais voilà, ça n'a pas grand intérêt comme voiture si ce n'est d'être à peu près bon marché, mais en même temps, il y a meilleur bon marché dans la catégorie. Donc bon. Bon après c'est un peu moins spectaculaire, c'est-à-dire qu'il y a le Kia Sportage qui est en 4ème position avec 16% de moins, le Toyota CHR, le Volkswagen Touran avec moins 16%, le Nissan Qashqai avec moins 15%, la Renault Talisman avec moins 15% également, l'Audi Q5 avec moins 14% et la Peugeot 3008 qui avait fait très fort en 2018 et là qui perd 14% en 2019. Vous remarquerez que dans ce top 10, la bonne participation des SUV. C'est-à-dire que, ouais. Est-ce que c'est le début de la fin des SUV ? On peut se poser la question, la suite nous le dira.
Pas plus malheureux, tu vois.
En tous les cas, sur toutes les voitures que je vous ai citées, s'il y a un modèle qui vous plaît en concession, bah, c'est le moyen d'aller négocier ses airs avec votre concessionnaire. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon voilà, moi je veux bien vous acheter votre merde, hein, mais va falloir me baisser le prix. Voilà. Non, il n'y a pas que des merdes en vrai là-dedans.
Tu peux négocier ça maintenant.
Bah, c'est-à-dire que quand t'as une voiture qui fait moins 16%, moins 20%, ou même moins 40%, c'est le moment d'acheter un Kangoo, si vous voulez, tu vois, de oui, cette génération-là. D'ailleurs, vous me faites un gros rabais, parce qu'en même temps, elle se vend plus, votre voiture. Donc, vendez-la moi.
Ouais.
Et tu peux faire des bonnes affaires. Non, mais c'est vrai. Hein. Mmh, et puis, encore une fois, il n'y a pas que des mauvaises voitures dans l'eau. Et je rappelle que c'est des baisses par rapport à l'année précédente. Donc par exemple, si je prends le 3008, il s'était extrêmement bien vendu. Donc même s'il perd 14% enfin l'année dernière en 2019 par rapport à 2018, il reste sur des bonnes ventes. Mmh. Voilà. Alors que la Tipo, à mon avis. À toi, Jolan.
Ouais, bah moi je vais vous parler de la Tesla Model 3. Est-ce que vous voyez à quoi elle ressemble ?
Oui, c'est la petite Tesla, voiture électrique, hein, bien sûr, chez Tesla.
Moi je les admire plutôt, ces voitures, elles sont cool.
C'est plutôt sympa, mais bon, c'est une voiture
c'est
électrique.
C'est juste que
quoi.
Ça fait pas de bruit, c'est juste chiant. Ouais. Voilà, donc là ce qu'ils proposent chez Tesla, c'est de. Tu sais, tu peux ajouter des voix dans.
Oui.
Tu peux.
Un coussin péteur, par exemple.
Par exemple,
que tu mets ton clignotant, ça fait un péteur.
Ouais. C'est très drôle.
Bah oui, c'est. Et la technologie.
Là, tu vas pouvoir ajouter la voix de
K2000. Et même, alors non seulement tu peux ajouter la voix à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur pour les piétons. Et c'est ça qui est très drôle.
Ça, c'est excellent.
Ils vont utiliser les haut-parleurs qui, justement, vont nous prévenir qu'il y a une voiture électrique qui arrive. C'est-à-dire que ça va faire le son d'une voiture thermique pour nous indiquer qu'il y a une voiture qui arrive. Ils vont utiliser ce son pour parler comme Kit dans K2000.
J'imagine le petit vieux qui traverse la route et que t'as la voix de K2000.
Ça me fait penser à mon père, moi. Il avait un GPS et sur le GPS il avait mis la voix de Bourville.
Donc là,
on se tapait de mort à chaque fois quand il.
Attends, si, mais là, attendez à droite.
Du coup, c'est prévu pour 2020. Voilà, ils vont mettre. Fin 2020, pardon, ils vont mettre ça en place bientôt. Et sur Twitter, ce qui revenait souvent, c'est que les Français aimaient bien mettre la voix de Morgan Freeman.
Ah, ok.
Voilà.
Oh, il a une voix grave et sensuelle. Ouais, c'est les Français, ce qui est bien.
Starter, le garage.
Alors, dans Et on se calme, monsieur. Monsieur fait de la répétition. Dans le garage, on vous en a parlé, le modèle mythique que vous avez forcément piloté au moins une fois dans un jeu vidéo. Ça fait partie de la culture japonaise bien ancrée chez nous. C'est pas pour rien que cette voiture est ultra efficace. Avec ses 4 roues motrices, son 4 cylindres à plat boxer, elle colle à la route. Je parle bien sûr de la Subaru Impreza. Hein. J'ai eu l'occasion de faire un tour à bord.
Oh la classe.
C'est assez bluffant. Petite dédicace d'ailleurs au maire de notre ville, on en parlait tout à l'heure, qui en possède une des années 90.
Ouais, je l'ai piloté.
C'est vrai ?
Ah ouais ?
En vrai, hein ?
Non, sur WRC.
Bah oui, voilà. C'est bien ce que je disais, dans un jeu vidéo, on l'a tous piloté. Hein. Alors, on adore la version, bien entendu, les plus sportives, c'est-à-dire version WRX, 2 litres turbo ou STI.
Ouais, un truc qui consomme bien.
Ça. Ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps, tu vois, l'avantage d'une Impreza, c'est que c'est pas une voiture d'égoïste. C'est-à-dire que tu peux emmener toute ta petite famille en vacances.
En vrai, ouais,
c'est
pas trop cher en plus.
Non, mais c'est ça, t'as les 4 portes, t'as le coffre, tu vois. Bon, on préfère la montagne parce que y a plus de virages, mais on emmène toute la famille en vacances avec la tente à l'arrière. Donc c'est, voilà, c'est, ça fait plutôt plaisir. On a 3 annonces pour vous dans Starter. On commence par toi, Jolan.
Ouais, bah moi je vais vous parler du modèle WRX STI.
Ouais, donc la plus puissante des Subaru Impreza.
C'est ça. Alors c'est une année 2012, le kilométrage 473 000. Pour un prix de 25 000 euros, voilà.
Tu te rends compte que c'est le prix d'une Clio ?
Ouais.
Tu t'achètes une Subaru Impreza, c'est génial.
Mais moi, je pense surtout à l'essence, quoi, derrière.
Oui, bah, alors, ok, ça consomme une Clio. Mais si tu roules 2 fois moins, bah, c'est pareil.
Pas sûr.
Ah, si.
Du coup, nombre de portes, 4.
Ouais.
Et puissance, 305 chevaux.
Ouais.
Voilà, donc
là,
c'est
ça fait
c'est
plaisir.
Un truc qui envoie.
Ouais, et en plus, collé à la route, parce que 4 roues motrices, c'est ultra efficace, c'est super bas, etc. Ouais. C'est génial.
Une voiture en excellent état. Voilà.
Antoine.
Moi, c'est la WRX8
ouais.
de 2004.
Ouais. D'accord.
Elle est à 14 700 euros. Elle a 125 000 km.
Ok.
Elles sont pas si chères que ça.
Elle a terre faite à neuf. Enfin, elle a terre faite le bas de. Bas de moteur, voilà.
Là, ouais, le bas de moteur, okay. D'accord. Ouais, oui, donc bas de moteur, c'est effectivement c'est l'essentiel du moteur, un cylindre, piston,
juste
chemise,
etc. Les pare-chocs à repeindre.
Ok.
Et elle est à TZ dans le 41.
Donc sur le bon coin ?
Oui.
Et toi ?
La mienne aussi sur le bon
aussi,
coin,
hein, pour terminer.
Qui est disponible dès aujourd'hui.
Dernière annonce.
Dernière annonce, on va toujours parler de la
WRX STI,
j'y arrivais. Année 2002, kilométrage 85 000, nombre de portes 5, et pour le prix de 8 000 euros, et pour la puissance de 217 chevaux.
Alors, je suis pas fan des 5 portes, alors certes, c'est un côté pratique un petit peu break, par contre, je trouve que la 4 portes. Autant d'une manière générale, je suis pas trop fan, mais là dans les Subaru Impreza, ça a de la gueule. C'est personnel,
c'est
mais.
Mitsubishi Evo aussi, je trouve que ça.
Ouais, bah c'est la concurrente, hein, la Lancer Evolution 6-7, etc. C'était les concurrentes de la Subaru Impreza, mais deux voitures super efficaces japonaises et on a envie de se les offrir. Donc si vous avez un petit peu de budget, faites-vous plaisir, même si, comme dit Jolan, ça consomme un peu, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas là pour consommer dans cette vie ?
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur Indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.